you go, everyone you know, on the road in the club, everyone you know does.
It's impossible to stop when you start to feel it. Can't you believe it? That the whole world needs it.
Bonsoir.
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 Bienvenue sur Cyclocast, le podcast du vélo au quotidien. Ce soir, nous avons moi-même Grincheux.
Moi, c'est Prokylus.
Et moi, c'est Mogor.
Et ce soir, nous allons aborder des sujets classiques, des news. Mogor va nous faire un petit point sur la musique, l'habillage sonore du tunnel de la Croix-Rousse. Mm-hmm. Ah oui, non, il faut prendre les mots techniques. Prokylus va nous parler des conseils à nos amis les automobilistes.
Voilà, je m'adresse un petit peu à eux ce soir, au lieu de s'adresser toujours aux cyclistes. Les pauvres vont se sentir exclus.
Tu crois qu'ils nous écoutent ?
Ça, c'est parce qu'on a reçu un journaliste auto la dernière fois, c'est ça ?
C'est ça.
Et pour finir, Mogor nous fera un dossier sur les VLS ou vélos libre-service. Alors, avant de commencer les news, j'ai un petit rétro-pédalage. Donc, suite au dossier de la dernière fois sur le transport des enfants, G-Code m'a demandé l'autre jour mon avis sur le fait de transporter un enfant sur un cargo, en l'occurrence un bullet, en le plaçant non pas dans la caisse, mais en le plaçant entre soi et le guidon. L'enfant se tenant debout sur les petits replats qui sont présents. Donc, je sais que c'est une pratique qui est assez courante. J'ai même moi-même pratiqué lors du Paris Cargo Bike Meeting pour gagner un point bonus et mettre un enfant de plus sur le vélo, mais c'était hors circulation et pour ma part je n'envisagerais pas de faire autrement. D'abord parce que ça me semble pas rentrer dans le cadre légal du transport d'enfants, c'est-à-dire normalement on doit être sur un siège fixé sur le vélo avec les pieds protégés de... Bon là les pieds sont pas exposés, mais on doit être, enfin l'enfant doit être tenu, etc. Et puis je le sens pas comme position pour transporter un enfant. Donc je sais pas si vous avez des...
En plus, la barre doit être assez haute, non? La barre de cadre.
Il faut que l'enfant soit suffisamment âgé pour enjamber le cadre.
Et ben. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Quel âge pour un enfant, de quel âge?
C'est pour son fils à elle, donc je pense qu'il a à peu près l'âge du nôtre. Bah, tu me diras, le nôtre, il commence à grimper dessus depuis un certain temps.
Ça dépend.
Je confirme, moi, j'ai des photos.
Je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant. S'il arrive pas seulement à enjamber, mais à se tenir fermement, ça dépend de la confiance qu'on a dans l'enfant. S'il a tendance à lever les bras pour dire « Hé, regarde !» ou s'il va bien rester accroché. Ça dépend également du trajet. S'il est long, court, fréquenté par beaucoup d'autres personnes sur la route. S'il est sur une piste cyclable protégée.
Tout à fait, voilà. Sur un trajet exceptionnel et court, pourquoi pas. Mais ça doit rester quelque chose d'assez exceptionnel et dans des conditions où il y a peu de risques. Si c'est un mode d'installation, enfin, une façon de s'installer sur le vélo récurrente, pour moi c'est un petit peu limite. Mais bon, je n'ai pas d'avis plus que mon ressenti de parent là-dessus. Est-ce que je sais du cadre légal de transport d'enfants sur des vélos? Voilà. Vous avez d'autres choses à rajouter?
Non, tout va bien.
Et ben, on continue sur les news alors. Donc, je vais d'abord vous parler d'une petite entreprise, enfin petite, je sais pas d'ailleurs, une entreprise indienne, Lucid Design, qui propose un vélo minimaliste en kit et dont tous les éléments se démontent pour se ranger dans un élégant sac à dos de la taille des roues. Donc tout le
défini élégant. En quoi est-il élégant?
Bah, il est en cuir et plutôt fashion.
Sobre.
Sobre. Donc un joli cuir.
Ah, je peux vous le décrire. Il s'agit d'un sac à dos rond. Comme une roue.
Voilà.
Le cuir est marron avec des...
Cuir un peu vintage.
Avec des reflets, voilà, marron foncé. Et il est gravé d'un espèce de X ou d'une croix.
Je crois que surtout ce sont en fait des rangements pour les différents différentes parties de
d'accord. Tube. Donc il est gravé d'une croix et il y a le petit logo en haut et il est traversé au milieu. Il est plat et rond comme une grosse galette et il est traversé au milieu par un zip qui le sépare en deux moitiés. Donc du coup, effectivement, la forme est assez
Le cadre est
pur.
En quoi?
Je n'ai pas de détails.
En métal.
Vu la finesse, je serais tenté de penser que c'est de l'acier.
Mm-hmm. Ah non, mais c'est pas forcément du métal. Mogor, tu dis ça, mais ça pourrait être du carbone, hein, on va savoir.
Donc le vélo est en 21 pièces et je ne vois pas l'information de la... du type de métal.
Pas dramatique, c'est pas dramatique.
News suivante.
Alors, une petite news sur un projet qui s'appelle Synergie. C'est du cinéma ambulant avec des vélos. Il s'agit de deux femmes, Lucia et Maïlis. Lucia est ingénieure du son, elle vient d'Argentine. Maïlis, elle est spécialisée dans l'énergie et l'environnement et elle est originaire de Chambéry, en France. Et leur projet, c'est de raconter les énergies renouvelables de la France à l'Argentine. Donc, elles font un cinéma ambulant et la projection est alimentée. L'énergie de la projection, c'est un vélo. Donc, il y a un spectateur qui doit pédaler pendant la projection pour que le projecteur puisse tourner et projeter le film.
Ah, ça, c'est intéressant.
J'espère que c'est pas des films trop longs non plus.
Alors, les mecs se relaient.
Alors, déjà, il y a un système de batterie qui permet à la projection de pas être interrompue. Donc, je suppose qu'il s'agit d'un...
Un condensateur.
D'un condensateur, voilà, je cherchais le mot. Du coup, je trouve ça assez sympa, le cinéma devient un peu participatif. Et les films, si j'ai tout compris, les films sont au sujet d'énergie renouvelable. C'est pas pour aller voir le dernier blockbuster, etc.
Oui, je me doutais bien quand même.
J'imagine l'alimentation d'une caméra qui fait du 3D.
C'est un projecteur, c'est pas une caméra, mais ouais.
Oui. Ou un projecteur 4K.
Eh bien, le 11 novembre de cette année, elle publie un billet sur leur blog intitulé « De l'autre côté du fleuve Sénégal ». Et leur voyage se poursuit. Début décembre, elles ont prévu de prendre un bateau, etc. Donc, je vous laisserai découvrir ça. On va mettre le lien sur notre propre site web vers ce projet Synergie.
D'accord.
Très bien. Eh bien, je laisse Proculus pour la news suivante.
Alors, moi, je vais vous parler de l'association Deux Pieds Deux Roues, qui est une association de promotion et de défense des droits du cycliste à Toulouse, c'est-à-dire les homologues de mes collègues de la Ville à Vélo. Donc, il s'avère qu'à Toulouse, le vélo, ça s'est développé, la pratique a augmenté et a évolué. Et donc, du coup, l'association Deux Pieds Deux Roues a décidé de lancer une opération de recensement des besoins réels des cyclistes en matière de stationnement via une application cartographique qui s'appelle Vélops, donc V-E-L-O-B-S. Pardon, je suis un peu pris du nez. Donc, je vous invite, si vous êtes toulousain, à aller sur Internet, à chercher Vélops et à télécharger cette appli pour pouvoir signaler où est-ce que vous vous garez et où est-ce qu'il vous manque des places. Voilà. Petite aparté par rapport à ta news précédente, Mogor, tu parlais d'alimentation par vélo. On avait pensé faire la même chose pour un ordinateur portable pour les inscriptions dans les forums d'associations avec la ville à vélo. Mais au final, c'était trop compliqué, donc on l'a jamais fait, mais ça nous intéressait.
Un jour, peut-être.
Un jour.
Ce projet verra le jour.
Voilà.
Ok.
Eh bien, en parlant d'applications pour utilisateurs, il y a une jeune pousse bordelaise. C'est ce qui est dit dans l'article, donc il s'agit d'une start-up appelée...
Sud-Ouest for the win.
Exactement. Appelée QCIT, Q-U-C-I-T. L'idée, donc ils se sont mis en cheville avec V-Cube, les vélos en libre-service bordelais, pour exploiter les données des 4 dernières années. Donc c'est du big data, on appelle ça en informatique. L'idée, c'est d'exploiter les données et ils ont fait une application qui est prospective. Comment expliquer ça? Donc, en tant qu'utilisateur, quand vous avez l'application, pour chaque borne de vélo en libre service, vous avez une courbe qui vous dit « Ah, là, je pense qu'à 15 heures, il devrait y avoir 5 vélos à cette borne. » Et ces données, elles sont issues d'un calcul fait à partir des données des années précédentes.
C'est des statistiques prédictives, quoi.
Exactement, c'est des statistiques prédictives. Et donc, l'idée, c'est de faciliter la vie des usagers. L'application s'appelle La Bonne Station, c'est à Bordeaux, je l'ai dit. Et voilà, donc vous pourrez peut-être la tester et nous en dire des nouvelles, nous dire si c'est bien.
Très bien. Alors, j'enchaîne avec cette nouvelle tendance. Les flottes de vélos d'entreprise, c'est une nouvelle tendance, les flottes de vélos d'entreprise et parfois même les vélos de fonction.
Ah, je crois qu'elle nous parlait de la barbe, mais... Oh, ah non, par rapport avec le vélo.
C'est vrai que c'est Movember.
Bah oui, bon, alors on va revenir sur le sujet. Donc, je disais, donc les flottes de vélos d'entreprise, parce que oui, certaines entreprises l'ont compris, faire du vélo, c'est bon pour leurs employés. Alors, que ce soit pour se déplacer sur les grands sites ou entre différentes agences, comme véhicule de fonction, le vélo à la cote, mais bon, malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas encore compris cela. Mais voilà, il y a un article que je vais vous mettre dans le billet qui parle justement de remplacer la voiture par le vélo de fonction. Que c'est tendance.
Classe. En parlant de tendance, j'ai dégoté un habillage. Ça pourrait presque faire l'objet d'un rétropédalage, comme aime bien faire Grincheux. Il s'agit d'une pièce d'habillement pour les femmes qui s'appelle
une jupe.
Alors non, c'est le nom du produit, c'est le Bikey Girl Bloomers. C'est une jupe avec un short en dessous. L'idée, c'est d'avoir une jupe mi-longue qui arrive au-dessus du genou, qu'on attache avec un petit strap sur le côté pour la relever et qu'elle entrave pas le mouvement pour pédaler. Et en dessous de la jupe, au lieu d'avoir une culotte, il y a une sorte de cuissard avec de la dentelle au bas des jambes. Donc je montre...
Ah ouais, c'est très très mignon.
Au mec qui m'accompagne. Alors bon, je suis à moitié sceptique, comme j'ai expliqué l'autre fois, parce que pédaler en jupe, pour moi, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est rigolo d'avoir une jupe short sportive, version trendy et girly. Voilà.
Alors, ce qui est génial, c'est que, de ce que je viens de voir, c'est pas un cuissard noir moche. C'est vraiment, comme dit Mogor, avec de la dentelle, c'est coloré, c'est très très mignon. J'aime bien.
Merci. Alors, vous ne l'avez sans doute pas raté, mais une piste cyclable d'un nouveau type a été inaugurée il y a peu de temps. J'ai pas trouvé la date exacte de l'inauguration. Aux Pays-Bas, exactement à Kromeny, donc à 25 km d'Amsterdam. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est une piste cyclable photovoltaïque.
Oui, effectivement, j'en ai entendu parler.
Donc oui, ils ont mis 70 mètres de panneaux solaires pour l'instant qui vont permettre, entre autres, d'alimenter l'éclairage public.
Excuse-moi, et... où sont les panneaux solaires ? Ils sont par terre ?
C'est la piste cyclable elle-même.
D'accord.
Par terre. Donc ce projet devrait être prochainement étendu de 30 mètres de plus et rester en place plusieurs années pour étudier justement valider le fonctionnement, étudier un peu les usages qui peuvent en être faits et voir si ça vaut le coup d'étendre cela plus loin, d'industrialiser un peu plus et de passer à une échelle supérieure de pistes cyclables photovoltaïques. Donc par contre, pour arriver à ce résultat, cette piste a fait l'objet de nombreuses études pour obtenir une surface qui soit suffisamment résistante, sans pour autant bloquer la lumière, avec un revêtement qui ne glisse pas pour les cyclistes.
Mais qui ne se raye pas.
Qui ne se raye pas, c'est pas forcément grave.
Il faut quand même conserver une certaine luminosité.
Mais voilà,
du moment qu'il fonctionne.
Voilà.
Les
rayures vont faire perdre une partie de la luminosité. Il faut aussi que ça ne se salisse pas. Donc
ça se salisse pas, que ça soit facile à nettoyer, j'imagine.
Voilà. Oui, mais
c'est ce que j'allais dire, c'est que le problème principal des panneaux habituellement, c'est de devoir les nettoyer
sur
un tour.
Le rendement. Oui.
Voilà. Donc là, c'est pas
il vrai. Existe. Il me semblait qu'il existait des vitres. Qu'on appelle auto-nettoyante dans une matière ou avec un revêtement spécial qui, pour résumer, c'est un peu déperlant, quoi.
Oui,
ça évite que la saleté s'accroche.
Le problème, c'est que souvent ces surfaces qui sont assez auto-nettoyantes sont très très lisses. Et là, on a un problème avec le vélo.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques années pour savoir si nos pistes deviendront toutes photovoltaïques à l'avenir.
Ok.
Alors. J'hésite parce que j'ai deux news.
Bon, bah j'y vais alors.
Non, j'ai une news qui est... vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai l'impression que c'est pas très nouveau. C'est en Belgique, donc fini les pistes cyclables, place aux autoroutes pour cyclistes.
Ah, tu me piques une news.
Ah, désolé.
Ah, pas grave.
C'est pas grave.
Donc le nord de la Belgique est très plat.
Mets lui un coup de bûche.
Arrête avec cette bûche.
Juste à ta gauche.
Le nord de, donc on reprend. Au nord de la Belgique, l'idée c'est de faire des autoroutes pour cyclistes, donc des pistes cyclables géantes de 3 mètres de large, plates, rectilignes, sans obstacles dans la mesure du possible, croisements sécurisés parce que contrairement aux autoroutes, on peut pas vraiment les faire passer. Que elles, en tout cas c'est jamais la priorité, mais ça aurait pu être rigolo d'avoir des sortes de ponts au-dessus de la route ou des choses comme ça. Elles seront de préférence en béton ou en asphalte, et l'idée c'est de circuler dessus à 30 km/h. Ah, et ils prévoient de les éclairer, ce qui n'est pas le cas des autoroutes belges.
Si,
ah si, c'est l'inverse, excusez-moi.
C'est les autoroutes françaises qui sont pas éclairées et les belges qui le sont.
C'est ça, non, c'est des discussions avec les belges habituellement qui se moquent de nous. Parce que...
Oui, parce que pourquoi les autoroutes françaises ne sont pas éclairées ? Parce que les Français se prennent pour des lumières. Elle est classique.
Et donc, il y a 600 km de voies prioritaires, et là, il reste 200 km à construire. Enfin, il restait fin octobre, avec des ponts et des tunnels, etc. Et il y a déjà des projets en Flandre, notamment vers Anvers. Donc, quand est-ce qu'on va faire un petit tour en Belgique ?
Ça donne envie, là, d'un coup, ouais, effectivement.
Je vous calme un tout petit peu, parce que moi, j'avais vu que c'était prévu pour être ouvert en 2018.
Eh bien, très bien, nous. C'est pas grave.
Donc, mais par
2018.
Contre, alors, c'est trois autoroutes pour 2018, donc peut-être que c'est la fin des trois et que la première sera terminée plus tôt.
Oui, tu as raison, j'avais cette information. Et je ne l'ai pas dite.
Merci.
Alors moi j'ai une toute petite news qui colle bien avec avec ce dont vient de nous parler Mogor. C'est une news ultra locale. Il faut savoir que après la Viarona, l'idée a fait des petits et le conseil général de l'Ardèche et du Gard avait songé à faire à transformer l'ancienne voie de chemin de fer désaffectée de qui allait du Teil à Alès en voie verte. Donc certains entre autres mes deux camarades connaissent un petit peu puisqu'ils sont passés dans le coin vu que moi je suis originaire de là-bas et j'ai le plaisir de vous annoncer que mon village natal Ruyons a déjà préparé toute la voie sur son territoire et qu'elle est prête. Il y a la moitié qui est recouverte d'enrobé et l'autre moitié qui est déjà en stab et qui va être couverte. Donc à terme peut-être une nouvelle voie verte à explorer pour aller du Teil à Alès.
De toute façon, à partir du moment où ils ont enlevé les traverses de chemin de fer, c'est bon, on peut passer.
Il y avait le ballast jusqu'à il y a pas si longtemps et ça passait très très mal, mon pauvre. J'avais essayé avec un VTT.
Il faut juste un fat bike.
Un gros fat bike, alors.
Oui.
Voilà.
J'ai des grosses roues maintenant.
Alors, je vais vous parler donc le site Vélook qui indique tout plein de bons plans pour trouver des vélos d'occasion, un calendrier de bourse au vélo, Emmaüs et autres vide-greniers. Mais également, il propose une page qui recense les meilleures adresses pour trouver des vélos d'occasion dans votre ville. Alors, pour l'instant, ça ne couvre que Lyon, Paris et Montpellier.
Parfait.
Mais déjà, si vous cherchez à acquérir une nouvelle monture, si vous savez pas par où commencer, c'est un bon début. Vous pouvez aller voir sur leur site. Les recommandations pour trouver soit dans une boutique, soit des ateliers comme à Lyon il y a le recycleur,
la petite rustine.
Ça n'est pas mentionné sur le site, mais
oui, j'allais dire est-ce qu'il mentionne les boutiques qui auraient les deux, des vélos neufs et d'occasion.
Il y a VTT Cité Loisirs qui est mentionné donc qui est une boutique qui vend du vélo neuf et a priori vend également des vélos d'occasion. Voilà.
À Copenhague, il y a, dans les années 90, c'était une des premières villes à mettre un système de vélo en libre service. Je parlerai de ce sujet un peu plus longuement tout à l'heure. Et finalement, ça a été un échec à l'époque à cause de problèmes techniques. Aujourd'hui, en 2014, on recommence. Copenhague décide de mettre des vélos électriques en vélo en libre service. Donc le vélo est hyper high-tech, il a un look, il est en enjambement bas en col de cygne, avec un look qui fait vraiment penser au vélo électrique, et il s'attache par la roue avant à la borne, en tout cas c'est ce que je vois sur l'image que je vois.
C'est ce qu'on en voit, donc en fait on rentre la roue avant dans la borne et ça fixe au niveau du
moyeu.
Bas de la fourche,
ou du
moyeu, oui.
Et en fait il a une espèce de petite tablette tactile sur le guidon, ce qui permet d'avoir accès
à des infos touristiques.
À des infos touristiques et à un GPS, donc classe. Voilà, un site le qualifie de smart bike.
Merci.
Voilà.
Alors, est-ce que vous avez lu Dune ?
Oui, vous savez, mille fois.
Le livre de Frank Herbert, l'Épice, les Atreides, les Fremen, Mois de Dib, etc., etc.
Eh bien,
est-il l'élu ?
Non, c'est pas la question. Donc, si je te parle de distil, ça t'évoque quelque chose ?
Ah oui, bien sûr, tout à fait.
Eh bien,
c'est la tenue des Fremen qui sert à récupérer leur transpiration et autre chose
pour recycler l'eau.
Toute
l'eau qui peut être récupérée pour...
Tout à fait.
L'urine.
Tout.
La salive.
Mais les vrais Fremen ne mettent pas les gants et ils frottent leurs mains avec de la créosote.
Bon,
pardon, j'arrête.
Ce n'est pas le sujet. Et bien donc, un étudiant en design industriel de Vienne en Autriche, Christophe Rethesar, s'en est sûrement inspiré pour son invention qui se charge de condenser l'eau contenue dans l'air pour remplir une bouteille en roulant. Donc c'est un système qui vous procure de l'eau gratuite pour rouler dans des pays où les fontaines ne sont pas légion et où les cimetières...
Et là, en fait, mon camarade Mogor, mon camarade Grincheux me regarde avec un grand sourire parce qu'on s'est déjà retrouvé comme des idiots.
Et Proculus qui me disait, mais non, t'inquiète pas, le bon plan, c'est tu vas dans un cimetière, il y a toujours, un robinet dans le cimetière.
On a déjà parlé de cette histoire de cimetière mille fois.
C'est un système donc qui s'installe sur le cadre du vélo et qui s'occupe de condenser l'eau contenue dans l'air ambiant.
C'est une
pour remplir une bouteille d'eau.
C'est franchement une super idée.
Alors, c'est une super idée, mais le problème c'est qu'on a de l'eau distillée.
Donc, c'est-à-dire sans sel minéraux.
Et donc, bonjour la chiasse après.
Voilà. Bah, on peut toujours mettre une pincée de bicarbonate dessous, une chose comme ça. Moi, surtout, ce qui m'a fait un petit peu peur.
Non, enfin, l'idée de fond est très bonne. Mm. Bon, après, faut pas aimer les. C'est un étudiant en design industriel, c'est plus industriel que design. Hein.
Bien d'accord.
Et ça, est-ce que ça peut servir à des soins, l'eau distillée?
Ça peut.
On trouve sa pharmacie. Enfin, du coup, ça peut être assez intéressant en voyage.
Moi, j'aurais un peu peur d'une chose, c'est que en accumulant l'humidité contenue dans l'air, j'aurais peur que ça récupère également des particules fines, des saloperies dans ce genre-là.
Je t'inviterai à aller voir sur le billet que je, enfin la page que je mettrai dans le lien que je mettrai dans le billet et en apprendre un petit peu plus.
D'accord.
Encore une news. Bon, je sais pas si c'est très nouveau, mais c'est un contact, un friend Facebook qui l'a posté. Il s'agit d'un type, je vais pas dire son nom, mais on mettra le lien parce que je sais qu'un chien n'est pas très fan de ce type, qui a réalisé une expérience en mettant des roues en glace à son vélo.
Enfin,
je vois Franquilus qui est mort derrière, en se disant, mais quelle idée saugrenue. C'est bien genre le truc.
Pour rouler, faut garder son sang-froid quand même. Hein.
Et donc, du coup, déjà, la première chose, comment il a fait pour les fabriquer?
C'est vrai.
Non, alors, je ne suis pas très fan de ce type. Maintenant, l'idée est très, très rigolote. C'est juste que, après, il va sur un glacier et il prend un certain nombre de risques.
Dans la vidéo. Cela dit, il faut déjà avoir des roues en glace pour faire comme lui, ce qui n'est pas évident. Alors, en fait, il utilise un congélateur, tout simplement, les congélateurs armoires, qui permettent d'être assez grands. Et il a un moule. Il a posé des tubes, enfin je sais pas comment expliquer, mais il y a un moyeu avec des tubes qui dépassent et ces tubes accrochent les roues. Les roues sont pleines en fait, il n'y a pas de rayons ou quoi que ce soit. Elles sont également assez petites, c'est pas des roues de 700 ou 650 ou je ne sais quoi.
Et assez larges.
Et voilà, et elles sont très très larges, ça doit faire... je sais pas, 50 cm de large la roue. Ça fait un peu rouleau compresseur quoi.
Ouais, c'est plus, ça ressemble plus à la voiture des pierres à feu quoi.
Effectivement.
Il y a un peu de ça, les pierres à feu à l'âge de glace.
D'accord.
C'est une très bonne comparaison. Du coup, il les fabrique dans son congélateur, il fait des roues très épaisses en glace, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout content, il chausse les roues à son vélo, pas si on dit que c'est ça comme ça. Il essaye sur le bitume, sur la route. Il y a une scène, moi je trouve ça très rigolo, où on le voit essayer de monter une côte avec ses roues qui fondent. Et du coup, ça marche absolument pas.
Remarque, s'il fait très très chaud, elles fondent plus vite, et du coup, il réussit à monter.
Monter sur les petits moyeux. Et après, il essaye sur de la glace, dans une patinoire. C'est plutôt rigolo comme idée.
Ça marche pas beaucoup mieux.
Ça marche pas terrible. Glace contre glace, ça glisse, si je peux me permettre cette...
Sans blague.
Allitération. Et voilà, c'est, du coup, je trouve qu'un vélo patin à glace serait plus amusant. Et ensuite, effectivement, il va sur un glacier et il roule sur de la neige. Et là, c'est vraiment pour la frime, parce que vu l'étendue du glacier, l'angle de prise de vue et sa tenue, alias une chemisette, je suis pas sûr qu'il ait fait très long feu. J'ai pas regardé s'il avait des gants, mais bref.
J'ai regardé, il avait pas de gants.
Ça me paraît vraiment pas réaliste. Mais c'est quand même rigolo d'avoir... ça te dit, tiens, si je mettais des roues en glace à mon vélo.
Il faut bien des timbrés qui essaient un peu tout pour finir par découvrir des choses intéressantes.
Il me semble, oui, et il me semble qu'à un moment, au lieu d'utiliser de l'eau, il utilise du jus d'orange, donc il a des roues en sorbet à l'orange, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment pour la gloire, pour le geste. Voilà.
Merci. Alors, on le savait déjà, le vélo taf rend plus heureux. Mais maintenant, il y a en plus des études qui le démontrent. Comme par exemple, ces études menées par la Portland State University sur, entre autres, le bien-être sur son trajet de boulot où, sans surprise, le vélo ressort comme moyen de locomotion où on s'en sent le mieux.
J'ai deux questions. S'agit-il d'une Portland Bike University?
Non.
Et deuxième question, est-ce que l'étude a été faite sur Portland uniquement?
Je crois pas que l'étude soit limitée à Portland. En fait... C'est une étude parmi d'autres qui a été menée par la PSU, la Portland State University, et qui traite régulièrement donc de la mobilité dans son ensemble, le bien-être et Portland étant une ville très cyclable, le vélo et l'impact sur le vélo ou l'impact du vélo sur le bien-être. Voilà. Alors, c'était Halloween il y a pas très longtemps.
Et, oui.
Et qui dit Halloween dit monstres et entre autres zombies.
Oh.
Alors, le site Washington Bike.
J'adore.
Washington Bikes a recensé 13 raisons pour lesquelles le vélo est parfait en cas d'attaque zombie.
Ah oui.
Alors tout y passe, l'autonomie, la capacité à s'extirper de bouchons créés par la panique, la possibilité de se transporter plus qu'à pied, etc. Le fait que un vélo, même s'il n'y a plus d'essence, ça garde une valeur, etc., etc. Mais au-delà de cet aspect rigolo des zombies, enfin si on veut les zombies rigolos, cette liste garde tout son sens, surtout en cas de catastrophe naturelle, qui elle est beaucoup plus probable et verrait les limites de l'automobile de la même façon. Qu'une attaque zombie.
Tout à fait, et dans notre je ne sais pas si on doit révéler notre méthode de travail, mais dans notre liste d'idées de dossiers, on avait cette idée de
tout
dossier d'attaque zombie.
Les DRP,
les disaster recovery.
Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Je pensais essayer d'en faire un dossier complet.
Oui.
Il me semble que justement on avait eu une news ou des je sais plus si c'était pour une catastrophe liée à des crues ou un tsunami ou un tremblement de terre, des gars avaient déplacé des ressources, des matières premières en bullites.
Tous les ans, il y a une course qui est organisée à Portland, justement.
À ce sujet
là-dessus. Mais bon, on fera un dossier
complet. On en reparlera.
Voilà.
Oui, ça mérite un dossier complet, cette course. Une dernière news ou information, parce que c'est pas vraiment daté, on va dire. C'est daté dans le sens où c'est nouveau, ça vient de sortir. Il s'agit d'accessoires de mode féminin pour le vélo, on va dire ça comme ça. Donc l'idée, c'est au lieu d'avoir un gilet jaune avec une forme de gilet, je sais pas comment on appelle cette forme de gilet jaune, un chasuble.
Un Lagerfeld.
Au lieu d'avoir Lagerfeld, il s'agit d'un trench coat jaune avec une ceinture réfléchissante. Et oui. Vous voyez ce que c'est un trench coat ?
Un trench coat jaune, mais un trench coat jaune...
Jaune fluo.
Ouf.
La forme est plus flatteuse, on va dire.
Oui, c'est un peu comme ma veste, mais en jaune.
C'est donc quand même faire saigner des yeux un peu, non ?
Eh ben, au moins, tu te fais pas tuer.
Ah oui, c'est clair.
Voilà, il y a du passepoil réfléchissant. Le passepoil, c'est l'espèce de fine bande, l'espèce de petit bourrelet que vous pouvez avoir entre deux pièces de tissu, notamment sur les vêtements de sport, il y en a beaucoup. L'espèce de petite... je sais pas comment décrire ça, mais vous en avez tout sur vos vêtements de sport, notamment les vestes ou les sacs à dos.
Et puis sinon, vous avez internet, vous cherchez passepoil, et puis ça vous expliquera.
Et attendez, j'ai trouvé un autre accessoire, la capsuche. Ah pardon, je me suis complètement trompée, c'est la caisse-puche.
La caisse-puche.
C'est de l'autre côté du P. La grinche essaye de zioter par-dessus mon écran pour voir ce que c'est. Donc la caisse-puche, c'est une capuche pliante. Ça veut dire que vous pouvez avoir un manteau qui n'a pas de capuche. C'est un peu comme le petit chaperon rouge, en fait. À plat, c'est un bout de tissu.
J'aurais dit plutôt comme E.T. quand il est dans le vélo, il a une espèce de capuche sur la tronche. Exactement ça. Je reste dans le sujet du vélo. Hein.
L'idée, du coup, je n'en peux plus. J'adore E.T. en plus, vraiment. C'est trop, trop super.
Téléphone, maison.
Le film est chouette et le personnage est vraiment sympa, je veux dire. Donc, l'idée, c'est non, en fait, plus qu'E.T., c'est comme un foulard pour rester dans le côté chic. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main. Et quand vous le dépliez, c'est un foulard étanche, donc quand vous le mettez sur votre tête, il a une forme prévue et une matière prévue pour faire une bonne protection contre la pluie. Oui, Proculus ?
Bon, non, peu importe.
Proculus essaye de me faire des signes en rapport avec E.T., mais ça me semble un peu scabreux. Donc...
Non, mais je te... E.T., téléphone à la maison, je tends le doigt vers le ciel, puis voilà, bon.
D'ailleurs, E.T. essaye d'aller en vélo quand même.
Oui,
je sais.
Donc ça reste dans le sujet.
C'est ce que je disais.
Ouais, après, moi, les gens me regardent avec des têtes éberluées quand je leur dis que je fais 100 km par jour. E.T., il veut retourner chez lui, quoi. Même.
Écoute, tu leur diras ça la prochaine fois. Je fais 100 km par jour, mais pense à E.T.
Lui, il voulait d'une planète à l'autre, quand même. Hein.
Je veux dire, il avait la confiance dans son vélo.
C'est un gueudin, quoi. Je te raconte même pas la tête de la transmission quand il arrive. Hein.
Mais sans blaguer, on pourrait peut-être regarder le vélo de E.T. Bah, regarder E.T., pourquoi pas, mais regarder le vélo de E.T., comment il est. C'est quoi comme vélo, tout ça ? Est-ce que...
Alors, plus d'infos. Tu nous feras un rétropédalage pour la semaine le mois prochain.
Ça marche.
Voilà, donc la caisse-puche fabriquée en France.
Il faudra que tu nous mettes le lien dans le billet quand même pour qu'on voit à quoi ça ressemble, parce que nous on est en train de te troller comme des cochons.
J'espère en avoir une pour Noël, en fait, dans mes
petits bas. Ah, d'accord,
dans mes chaussettes. Dans mes chaussons.
Dans tes chaussures automatiques. Ok. Faire du vélo est moins dangereux que ne pas en faire. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Observatoire Régional de la Santé Île-de-France. En effet, les bénéfices sur la santé de faire du vélo, risque cardiovasculaire, obésité, ostéoporose, cancer, sont supérieurs aux risques encourus par les accidents et l'exposition à la pollution. Donc l'étude fait une projection après sur l'usage du vélo en Île-de-France en 2020 avec de différents scénarios, le plus pessimiste étant le doublement de la part cycliste. Donc même avec le scénario le plus pessimiste, les bénéfices sont déjà 19 fois supérieurs au risque. Donc voilà, faites passer le message.
Donc ça vaut le coup.
Voilà, faites passer le message, tous à vélo. Il vous reste des news ?
Pour moi c'est bon.
Et ben, je vais faire la dernière.
J'ai tout donné.
Je vais vous parler un petit peu d'art cycliste.
Oh là, là ça fait peur.
Eh oui. Donc Thomas Yang, un artiste de Singapour et amateur de vélo, a décidé de mêler ses deux talents et a utilisé des empreintes de pneus comme tampons pour réaliser des illustrations de villes emblématiques.
Ah, ça m'intéresse.
Donc on retrouve...
Le coup original.
Voilà. Quand on m'a envoyé cette information, je croyais que c'était le dessin des pneus qui faisait des... les pneus qui étaient sculptés pour pouvoir faire des silhouettes de villes. Et je me disais que pour moi le pneu est quand même un élément de sécurité du vélo puisque c'est ce qu'il y a sur le contact avec la route, et donc le côté esthétique ne devait pas primer sur la sécurité là-dessus. Mais en fait non, il prend des pneus de VTT, de différents types de pneus, justement pour avoir des traces différentes, et il s'en sert comme tampon. Et donc après il dessine en utilisant des pneus du commerce, donc des pneus de VTT avec des grosses tétines, des pneus de ville avec des petites sculptures.
En même temps, tu me diras, des pneus sculptés en forme de ville, le paysage devient vite monotone quand même.
Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était tout pour les news de cette semaine, de ce mois-ci, parce qu'on n'est pas encore passé en hebdomadaire, on a déjà du mal à assurer le mensuel. On va essayer de continuer comme ça, ça sera déjà bien. Donc maintenant, je laisse la parole à Mogor qui va nous parler de la musique du tunnel de la Croix-Rousse.
Tout à fait Thierry, tout à fait Grincheux. En fait, le tunnel de la Croix-Rousse, cet ouvrage que j'aime tant, dès qu'il a été créé, on a été dedans. Ça n'a pas été facile pour ma part, mais je suis rentré dedans le jour où il a été ouvert. On a vu les jolies animations, et ces animations... On en parle beaucoup, mais il y a surtout une petite musique. Je n'ai pas encore réalisé d'enregistrement.
J'en avais fait quelques-uns avant qu'ils rajoutent les sons au milieu.
Donc voilà à quoi ressemble la musique. Et du coup, je me suis demandé, mais qui a composé cette musique un peu planante ? Parfois, j'ai l'impression d'entendre des gouttes tomber. Parfois, je me demande si mon vélo fait un bruit bizarre. Et ben, cette information n'était pas du tout facile à trouver, puisque au moment où j'ai dit, tiens, on pourrait parler de la musique, ça serait sympa.
J'ai cherché moi-même et j'ai pas trouvé.
Voilà, je l'ai ajouté dans notre liste de travail. Et c'était le 16 avril 2014, et nous sommes actuellement en novembre. On a cherché, tout le monde postait des vidéos ou des photos, des images, mais la musique c'était assez difficile à trouver. Et inopinément, j'ai recreusé un peu la chose en octobre. Sur le site grandlyon.com, il y a une rubrique spéciale Tunnel de la Croix-Rousse, il y a un journal Tunnel de la Croix-Rousse. En fait, ce journal était distribué sous forme papier aux riverains et il est disponible en PDF. Toutes les éditions sont disponibles en PDF si vous avez envie de le relire. Et le journal numéro 13, enfin des informations. Donc l'animation entière du tube a été confiée à l'agence Skertze. J'ignore si ça se prononce comme ça, mais j'ai envie de le prononcer comme ça. Donc, qui propose une scénographie à base d'images animées projetées sur la voûte. Mais la musique, on n'en parlait toujours pas. Et enfin, la scénographie visuelle est accompagnée d'une ambiance sonore conçue par le compositeur-designer Louis Dandrel. Cela vise à créer un climat plus chaleureux afin d'atténuer l'effet tunnel. Ce qu'ils appellent l'effet tunnel, j'imagine, c'est l'effet oppressant du tunnel. Donc l'ambiance sonore est rythmée par les moments de la journée et les haut-parleurs sont disposés au-dessus de la poutre et orientés vers la voûte du tunnel.
Qui en fait réverbère le son.
Exactement, comme le tunnel a une forme
de tunnel
parfaitement symétrique et arrondi. L'acoustique, oui, il a une forme de tunnel, mais c'est complètement idiot ce que tu dis. C'est pas le terrier d'un lapin creusé dans la roche. C'est vraiment très très lisse et très très symétrique. Et donc voilà, Louis Dandrel, merci pour cette musique qui m'accompagne sur beaucoup de métrages.
Et merci pour ta recherche et pour ta persévérance.
Ma ténacité.
Oui, parce que j'avais cherché de mon côté et j'avais fouillé le site du Grand Lyon, mais j'avais pas trouvé les journaux du tunnel et je n'avais pas trouvé cette information.
J'ai cherché pendant 6 mois, tout va bien.
Eh bien, je crois qu'il va être temps de laisser la parole à Proculus.
Oui.
Alors, moi, ce soir, j'ai décidé de faire un petit billet concernant les conseils à nos amis automobilistes. Je me suis déjà beaucoup adressé aux cyclistes. Et bah, donc, un peu chacun son tour. Qui sait ? Certains ne sont peut-être pas hermétiques et nous écoutent dans le poste au milieu des bouchons. Alors, rassure-toi, ami quadricyclé, je ne tenterai pas de te faire lâcher ton volant pour un guidon. Tu sais déjà ce que j'en pense. Tu nous vois passer tous les matins tels des nobles chevaliers de Gore-Tex et de Mérinos sur nos destriers d'acier. J'aurais pas besoin de m'étendre. Non, ce soir, je vais juste te donner quelques conseils simples qui vont nous permettre, cyclistes et automobilistes, de cohabiter en bonne intelligence. Après tout, il n'y a pas de raison que tu y passes pas non plus. Les cyclistes y ont eu droit eux aussi depuis 6 épisodes au conseil de tonton Proc, donc cette fois-ci, c'est ton tour. Alors, le premier conseil que je donne, sur la bande cyclable, tu ne te stationneras. Les aménagements cyclables sont conçus pour arranger tout le monde. Les cyclistes, qui vont se sentir plus à l'aise loin des carrosseries. Et les automobilistes, qui, loin des vélos, se sentent plus libres de rouler.
Ou pas.
Oui. Alors là, j'ai Grincheux qui commence à faire des gesticulations. Ça va quand même, on m'entend, il n'y a pas eu de blanc.
Si.
Ah, flûte. Tu veux que j'en prenne ?
Non.
Non ?
Vas-y, continue.
Ok. Alors.
Les poditeurs tendront l'oreille.
Voilà, bah, vous tendrez l'oreille, tout à fait. Donc, ces aménagements sont conçus pour arranger tout le monde. Les cyclistes qui vont se sentir plus à l'aise dans les carrosseries et les automobilistes qui, loin des vélos, se sentiront plus libres de rouler ou pas s'il y a des bouchons. Alors, pourquoi foutre en l'air cet arrangement ? Par je m'en foutisme, je sais plus, je suppose, ou par égoïsme, ou pour vouloir tirer la couverture à soi, car on est jaloux de ne pas avoir d'aménagement pour soi. Dans ce dernier cas, je dirais que c'est de la mauvaise foi de la part des automobilistes, car après tout, pour les autos, il y a les autoroutes.
Il y a tout le reste de la voie qui est pour eux.
Non, le reste de la voie n'est pas pour eux, il est pour tous les véhicules. Oui. Qu'on soit bien d'accord. La route, elle est à tout le monde. Bon. Quoi qu'il arrive, ne le faites plus. Car le jour où vous verrez un cycliste devant vous alors qu'il y a une bande cyclable à droite, il y a fort à parier que ce cycliste sera devant vous parce qu'il en aura marre de faire des écarts entre la bande et la chaussée régulière. Tu as noté, je n'ai pas dit la chaussée pour automobile, j'ai dit la chaussée régulière. C'est une manœuvre qui est risquée car elle nécessite de se réinsérer sur une voie où les autres véhicules circulent à vive allure et ont une attention réduite. En bref, si on fait un parallèle avec l'automobile, c'est un peu comme si on passait son temps à se garer sur des places en créneau, puis à ressortir, puis à ressortir. Vous imaginez combien on augmente les chances de se faire percuter. Et sur le gâteau, ne croyez pas, cher automobiliste, que les torts seront pour le percuteur et non pour le gêneur. D'un point de vue légal, c'est 50-50. Maintenant, autre petit conseil, la priorité tu respecteras. Oui, ça semble évident, mais un vélo, un cycliste, sa priorité doit se respecter comme celle d'un autre véhicule. Rien n'est plus pénible que de passer pour un genre de sous-véhicule, de sous-citoyen, qui n'est que toléré sur la voie. Tous les véhicules ont leur place sur la chaussée, peu importe quel qu'il soit. Acheter une voiture, ça ne veut pas dire posséder la route. Aussi, partez du principe que la priorité des cyclistes est aussi importante que celle d'un camion. Un point particulier trop souvent ignoré concernant les priorités des cyclistes. Lorsque vous tournez à droite en coupant une bande cyclable, ce sont les cyclistes sur cette bande qui sont prioritaires. Même si cela semble identique, le rapprochement avec les voies d'une autoroute ne tiennent pas.
Là-dessus, justement, je vais publier en fin d'épisode une petite vidéo.
Sur les véhicules qui s'arrêtent au Danemark pour laisser passer, colle parfaitement.
Bon, je mettrai ça en conclusion.
Ah ben alors ça sera avec plaisir.
Et ça tombe, c'est exactement ce que tu es en train de dire.
Je vois quelle vidéo tu veux parler. Vous verrez ce que ça donne des bandes cyclables dont la priorité est réellement respectée. Et c'est le Danemark ou c'est les Pays-Bas ?
C'est à Copenhague.
C'est à Copenhague, donc c'est le Danemark. D'accord. Donc, Il faut savoir une chose, c'est que si vous tournez à droite et qu'il y a une bande cyclable sur le côté, que vous la coupez, vous n'êtes pas prioritaire. Si un cycliste arrive sur cette bande, c'est lui qui doit passer. Le rapprochement...
C'est très simple, vous coupez une voie de circulation.
Voilà, mais le rapprochement, on pourrait tenter de faire le rapprochement avec les voies d'une autoroute. Mais la différence avec les voies d'une autoroute, c'est que sur une autoroute, vous vous rabattez sur la voie de droite qui vous est autorisée pour prendre une bretelle de sortie. Là, en l'occurrence, la voie ne vous est pas autorisée quand vous êtes en automobile. Donc... vous coupez cette voie au lieu de vous rabattre dessus. Il faut partir d'un principe, c'est que ça pourrait être une voie d'autre chose. Si c'était une voie de tram, on ralentirait.
Une voie de bus.
Ou une voie de bus, mais la voie de tram, c'est encore plus parlant. C'était un plateau de tram, on ralentirait et on aurait même un feu pour nous indiquer qu'il faut nous stopper. C'est ce qu'on voit par exemple à Lyon sur l'avenue Berthelot. Voilà.
Ça n'empêche pas quand même certains de se dire qu'ils sont plus forts que tout le monde et d'avoir un tram de je ne sais plus combien de dizaines de tonnes qui ne peut pas s'arrêter comme ça. Et qui...
On parlera des prix Darwin un autre soir. D'accord ? Oui. Alors, troisième conseil, la distance de dépassement tu conserveras.
Et oui. Spéciale dédicace au taxi qui m'a frôlé, coupé la route et empêché de le redoubler par la suite ce soir.
Wesh, gros. Vous vous êtes déjà tenu au bout d'une piste de décollage juste quand un Airbus décolle au-dessus de vous. C'est de manière exagérée certes ce que les cyclistes peuvent vivre lorsque vous les dépassez en les serrant. Cet accidentogène est généralement inutile, du moins en ville, car le cycliste vous rattrapera au feu suivant. Si pour une raison ou une autre, le feu dans votre appart, votre femme sur le point d'accoucher, que sais-je, vous tenez absolument à dépasser le cycliste sans avoir la place de le faire, c'est-à-dire de maintenir une distance de 1 mètre entre lui et la portière de votre véhicule, la portière droite, si vous le dépassez par la droite, prenez au moins le temps de ralentir, de manière à ne pas le déstabiliser avec le vent de la course. Vous trouverez rarement un cycliste qui va vous reprocher de passer trop près si vous roulez lentement ou de passer trop vite si vous prenez de la distance. Mais c'est vraiment la collusion des deux qui rend la chose extrêmement désagréable. Enfin, dernier point, de klaxonner, tu t'abstiendras. Vos carrosseries vous protègent de la majeure partie des décibels, messieurs les automobilistes. Mais toutes les personnes présentes dans les rues, piétons, cyclistes, parmi les piétons, il peut y avoir des handicapés, il peut aussi y avoir des mamans avec des enfants, éventuellement des membres de votre famille.
Des papas avec des enfants ?
J'ai dit des mamans avec des enfants.
Ou des papas ?
Oui, j'ai dit des mamans avec des enfants.
Oui.
Excuse-moi, c'est hautement réducteur. Des parents avec des enfants. Je vous prie d'oublier ce que je viens de dire. Donc, en bref, plein de personnes, éventuellement des jeunes personnes, des personnes âgées, toutes, qui vont s'en prendre plein les esgourdes. Donc, c'est pas très sympa pour eux. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a également... Oui.
C'est de toute façon, c'est interdit d'utiliser...
Excuse-moi. Donc, et n'oubliez pas que ça peut également gêner les gens du coin. Et oui, il peut y avoir des immeubles autour, et ces gens-là, vous allez les gêner chez eux. N'oubliez pas qu'un jour, les gens du coin chez eux qui vont se faire gêner par les bruits de circulation, ça pourrait être vous. Certains cyclistes aujourd'hui, je vous le cache pas, seraient ravis, lorsque vous vous excitez sur le klaxon, de vous sortir de force de votre voiture pour vider la bonbonne d'une corne de brume dans vos oreilles afin de liquéfier vos tympans. Moi-même, ça m'arrive. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que les règles de cohabitation... ce sont avant tout des règles de réciprocité. N'oubliez pas que le con, l'autre abruti, celui qui est en face, un jour ça peut être vous. Pour cohabiter avec les cyclistes plus précisément, il faut toujours partir du principe que les cyclistes sont des automobilistes comme les autres, et que les automobilistes sont des cyclistes comme les autres. En somme, nous sommes tous des véhicules. Est-ce que j'ai besoin donc de préciser, je pense que non vu la réaction de Grincheux, que tous les points que j'ai abordés sont des infractions au code de la route et sont punis par la loi, certains de manière très très lourde.
Certains se sont récemment durcis.
Exactement. Entre autres concernant le stationnement sur les bandes cyclables, il faut savoir que si un cycliste est gravement blessé à cause de votre stationnement, très gênant donc maintenant, puisque c'est l'appellation qui a été retenue, vous pouvez finir en garde à vue le soir même, et éventuellement avoir de la prison. Comme je vous l'ai dit, les torts sont partagés à 50-50.
Voire pas partagés, mais c'est justement le propriétaire du véhicule.
Le percuteur va aussi être va aussi partager les torts. C'est ce que je voulais dire par 50-50, pas avec le cycliste.
Et encore, ça dépend des circonstances. Ça peut peut-être être même simplement rien de partagé, mais celui qui a créé la situation
justement, à ce sujet, donc juste pour dire, tu parlais que le code s'est durci. Effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, le stationnement sur les bandes cyclables est passé de gênant à très gênant. En fait, il n'a pas été considéré comme dangereux pour ne pas faire retirer des points aux automobilistes. Néanmoins, maintenant, c'est 135 euros. Donc,
et mise en fourrière.
Exactement. Concernant ce petit point en particulier, je n'ai pas pu trouver les jurisprudences. Si jamais vous les avez, que vous connaissez les références, les arrêtés, etc., vous pouvez utiliser le petit répondeur du podcast pour me donner ces références. J'en serais plus que ravi. Voilà. Pour conclure, je dirais juste que le meilleur juge de paix pour cohabiter en harmonie, c'est le code de la route. Donc au final, il faut essayer de le respecter. Automobiliste autant que cycliste. Prochainement, je vous ferai un petit top des phrases qui donnent envie de tuer sur la route. Donc n'hésitez pas à nous laisser là aussi des messages sur le répondeur pour nous faire partager celles qui vous hérissent le poil. Et je vous remercie de votre attention.
Merci à toi.
Merci.
Et bien je passe tout de suite la parole à Mogor.
Bonsoir, j'ai déjà dit ça. Bonsoir, ce soir, les vélos en libre service. Je me suis demandé, les vélos en libre-service, je me suis posé plusieurs questions. J'ai trouvé beaucoup trop de réponses pour vous les donner toutes ce soir, mais je vais essayer d'être assez synthétique. Je me suis demandé quand est-ce que ça avait été inventé, où est-ce qu'il y en avait en France, combien ça coûtait, et je me suis aussi demandé quelles étaient les critiques qu'on faisait aux vélos en libre-service et quels étaient les impacts sociologiques d'avoir des vélos sur la route. À votre avis, quand est-ce que ça a été inventé ?
On en a discuté tout à l'heure, donc...
Milieu des années 90, je dirais. Aux alentours de 95.
Bien avant.
Bien avant.
Alors, j'ai plein de questions, parce que comme j'ai beaucoup de dates sous le nez, je peux te poser des questions.
Ah sur... Tout à l'heure, tu as dit que Tu as dit tout à l'heure que les Néerlandais avaient fait un premier test, je dirais donc dans les années 70.
Pas mal, pas mal.
Et oui, parce que moi je suis parti en France, mais en France, oui, c'est dans les années 90, je pense, mais...
Alors attends, en France, on va en parler juste après. Mm-hmm. Donc, les tout premiers, c'était à Amsterdam, en fait, mm-hmm. en 1965.
Ah, j'étais même...
Les Vitefiets, les vélos blancs, Vitefiets.
Les Vitefiets, d'accord.
À Provo, les vélos blancs Provo, je vais pas y arriver, à Amsterdam. Donc du coup... Ça, c'était en 1965. Et en France, arrête de regarder.
En France, alors...
Est-ce que vous savez la ville et l'année à un an près ?
La Rochelle ?
Oui,
milieu des années 90 ?
Eh bien, non, c'était avant.
Avant ?
Non, mais moi, je croyais que c'était Lyon, donc...
88 ?
1974.
C'est pas vrai.
Mais si, en 1974, trois stations en centre-ville, 350 vélos jaunes mis à disposition du public. Eh oui. Mmh. Comme quoi, les Vélib en 2007, autant vous dire que...
2005.
2007.
2007.
Ma source est Vélib. Wikipédia, on peut en rediscuter. Je parle des Vélib à Paris. C'était
des Vélib, d'accord. Pardon, je croyais que tu parlais des vélos, excuse-moi.
Non.
D'accord. Donc je savais que c'était La Rochelle, mais alors je pensais pas que c'était aussitôt.
On parlera peut-être des vélos, mais. Enfin, non, comment dirais-je. Les vélos n'ont pas de spécificité particulière, à part d'avoir été mis dans une grande ville, donc Lyon, et juste avant Paris. Mais comme il y a eu l'expérience des Vélib à Paris juste après, j'ai trouvé beaucoup de choses qui concernaient des études plus sur les Vélib parce qu'il y avait plus de données à analyser.
Centralisation! François Ier nous a maudit.
Tout à fait. Voilà. Et le premier libre-service vélo informatisé, pour le coup, au monde, c'était en France. Est-ce que vous savez dans quelle ville et dans quelle année ? Parce qu'en 1974, c'était pas informatisé. Hein.
Même le Minitel n'était pas là.
Ceci, voilà, peut-être avec des cartes perforées.
Non, c'était gratuit, tout simplement.
D'accord.
C'était pas les vélos à Lyon
Eh bien, non. C'était à peu près 10 ans avant les vélos. C'était le 6 juin 98.
Mm-hmm. C'était où ?
Et c'était à Rennes, par Clear Channel. C'était le premier libre-service vélo informatisé.
D'accord.
Avec un système d'informatique derrière.
Ok.
Voilà, donc ça, c'était pour avoir des petits repères de date. Mm-hmm. Sur le coup, attendez, j'ai trouvé des listes. Alors, c'est des tableaux, c'est un petit peu embêtant à lire. Et surtout, je vais pas vous ressortir toutes les informations. Mais il y a des trucs rigolos dedans. Par exemple, sur ce tableau, quand je arrête de l'ordiner par-dessus mon épaule, il y a les villes, les dates de mise en service, le nombre de vélos, le nombre de stations et le nombre d'habitants par vélo. Et donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme information, puisque ça nous dit combien, enfin, oui, quelle est votre probabilité de trouver un vélo, d'être pas tellement en concurrence avec d'autres.
Alors, pour les très grandes agglomérations, est-ce que c'est le nombre d'habitants de la ville ou est-ce que c'est le nombre d'habitants de la communauté urbaine ?
Là, tu vas un petit peu loin, je pense.
Typiquement, Paris.
Et tu sais que tu lis par-dessus de son épaule, tu commences à faire du. À traire les puces avec des gants de boxe, elle va te remettre un coup de bûche, hein, t'as conscience. Hein.
Alors, ici.
Voilà, t'as raison, écarte-la la bûche, parce que sinon tu vas te reprendre un coup de bûche.
Par exemple, pour Paris, on nous dit que l'information est sur les stations situées à Paris et dans les communes environnantes, et que le chiffre d'habitants par vélo est valable pour Paris intramuros. Ça répond à ta question ?
Oui.
Ça, c'est pour Paris. Après, pour d'autres villes, il y a des petites notes aussi, donc j'ai pas été voir chaque petite note. Du coup, j'ai envie de vous demander. demander immédiatement. Est-ce que vous savez dans quelle région, ou si vous connaissez le nom de la ville, qui a le plus, ou plutôt le moins d'habitants par vélo ?
Marseille.
Alors le moins d'habitants par vélo, ça veut dire que vous n'êtes pas beaucoup en concurrence.
Le plus de vélos par habitant, quoi.
J'ai habité par vélo comme information.
Ah pardon, excuse-moi, le moins d'habitants par vélo, pardon. J'avais compris l'inverse. Donc en fait, oui, là où il y a le plus de vélos en ville, quoi.
Ça veut dire que sur un vélo, vous avez un certain nombre d'habitants.
Strasbourg ?
Alors, je suis en train de chercher Strasbourg dans la liste, du coup. Je vois pas Strasbourg, dis donc.
Il n'y aurait-il pas de vélo ?
C'est du vélo. Alors, je sais pas si ça rentre dedans, mais c'est du vélo en location Lille. À moyen et longue durée.
Non, peut-être ça rentre pas dedans. Libre-service, ça veut dire qu'on peut se servir tout seul.
Moi, je dis d'accord. Donc c'est...
Voilà. Moi, je dirais Lille.
Peut-être bien Lille, ouais.
Alors, Lille est pas mal placée.
Combien ?
Décathlonville.
Lille est pas mal placée. Alors, je vais vous donner quand même les bornes. Donc, la ville qui a le moins d'habitants par vélo, ça veut dire qu'il y a 20 habitants pour un vélo.
Mmh.
Ça, c'est la ville qui en a le moins. La ville qui a le plus d'habitants par vélo, il y a 3069 précisément, habitants pour un vélo disponible.
Bon, d'accord, il y a un vélo.
Effectivement. Non, il y a une station, pardon. Il y a 48 vélos.
C'est Saint-Chély-d'Apcher et
la ville où vous aurez le plus de mal à trouver un vélo pour vous, c'est Angers. Il me semble que cette ville n'est pas vraiment plate, donc bon. Et la ville où il y a le moins de concurrence, elle s'appelle Obernai.
Obernai, ça se situe où, ça ?
Bah, tu me parlais de Strasbourg. Obernai, le nom allemand, c'est Oberenheim. C'est une commune alsacienne et une cité médiévale. Mmh. Voilà, donc dans cette petite cité médiévale, vous pourrez pédaler tranquillou.
Région cyclable à Donf, j'avais le nez creux.
Yeah. Voilà, et du coup... Lille, au milieu de ces deux bornes, Lille est à 246 habitants par vélo, sachant que Paris est avant, à 137 habitants sur un vélo. J'ai l'image mentale de gens empilés sur un vélo, c'est drôle. Et Lyon et Villeurbanne sont à 154 habitants par vélo.
D'accord.
Donc vous aurez moins de concurrence à Obernai. Obernai, c'est vraiment spécial, mais après, c'est Paris. Entre les deux, il y a Grenoble, agglomération de Grenoble. Ensuite, il y a Lyon, dans les villes qu'on a citées. Ensuite, il y a Lille. Voilà.
C'est vrai qu'à Grenoble, il y avait beaucoup de vélos. Les Cyclocity.
C'est les métro-vélos, il me semble. Les vélos jaunes.
Tout à fait. Mais donc, Voilà, là, je parle des vélos en libre-service. Ça veut dire où on peut se servir soi-même. Pas des vélos. Par exemple, à Paris, je sais que la RATP fait des locations à la journée, mais il faut aller dans la station, dans l'agence RATP, les demander, etc. On n'est pas en autonomie. Donc, voilà, c'était pour vous faire un petit...
C'est intéressant, c'est très intéressant, effectivement.
Alors du coup, je me suis demandé à quel prix, là c'était un petit peu embêtant de chercher le détail de tous les prix, enfin c'était un peu compliqué. Du coup, je vais pas aborder complètement la question, mais en cherchant ça, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs systèmes de libre-service, vous le saviez sûrement déjà, mais pas moi. Celui qu'on connaît très bien, qui est les Vélov, les Vélib, c'est le système de Cyclocity, je reviendrai après, c'est des offres de services associées à un marché publicitaire.
Mmh. C'est JC Deco qui le propose.
Et nos voisins, les Allemands, notamment à Berlin, Francfort sur le Main, Cologne, Munich. Excusez-moi. Munich.
Enfin, moi, j'ai pas fait d'allemand, mais.
Et Stuttgart. Et ces villes-là ont le système Call a Bike. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Moi, j'en ai entendu parler par des amis qui avaient fait les touristes dans ce coin-là. Donc, l'idée, c'est qu'on s'enregistre par téléphone avec une carte de crédit. On paye une avance de consommation d'environ 5 euros. Et après, on peut louer n'importe quel vélo disponible en appelant le numéro inscrit sur le vélo.
D'accord.
Et donc les vélos ne sont pas dans des stations, mais répartis dans la ville.
Ça donne quelque chose de potentiellement beaucoup plus simple avec les portables aujourd'hui.
Et ouais, et là, je pense que vous aussi, ça vous ouvre de nouvelles perspectives d'utilisation. Et donc l'idée, c'est que chaque vélo dispose d'un cadenas. Sur le cadenas, il y a marqué si le vélo est disponible ou pas, si jamais quelqu'un l'a réservé. S'il y a un vélo en bas de chez vous, en rentrant chez vous, vous avez noté le numéro, de chez vous, vous appelez par exemple, hop, vous l'avez réservé. Et le code pour déverrouiller ce cadenas est donné par téléphone. Après utilisation, le vélo peut être laissé à n'importe quel carrefour. C'est pas mal. Et quand on verrouille le cadenas, on rappelle. Donc en fait, on passe beaucoup d'appels. Alors ce système n'est pas transposable en France.
Ah, c'est dû à quoi ?
Vous qui êtes férus de loi, je regarde Proculus parce qu'il est très féru de loi sur la circulation, l'accrochage des vélos au mobilier urbain
est interdit, d'accord.
Est interdit, eh oui.
Et pas en Allemagne.
Et pas en Allemagne, ouais. D'accord. Pourtant, en Allemagne, il y a d'autres règles, par exemple sur les lumières qui doivent être... Il y a des obligations plus fortes que pour nous, et ben...
Bah, entre autres, par exemple...
C'est d'ailleurs pas un mal.
La limite haute d'un éclairage cycliste, elle est plus que théorique. C'est-à-dire que tu ne trouveras jamais aucun policier qui dira « Votre phare n'est pas homologué, il est trop fort. » Tandis qu'en Allemagne, c'est rigoureusement vérifié, par exemple.
Tout à fait, mais donc c'est une différence notable.
Je pense que plusieurs d'entre nous sont plus calés sur les points de législation du vélo que les policiers qui nous contrôleraient.
Ça, c'est une autre question, sans doute, mais on va peut-être pas rentrer dans le débat.
Ça dépend des policiers. Mais je t'invite à faire un dossier sur la question, à interviewer des policiers si tu veux. Je ne sais pas, tu as matière, je pense. Et donc, il existe aussi le colobike fixe avec des stations.
Je viens pas te chercher au poste, au fait.
Hey. Vous en fichez complètement de ce que je raconte.
Non, du tout.
Je dédicace ce dossier à Lord ton père, de l'apéro du capitaine. Et il y a le thème colobike fixe. C'est le même principe où on passe plusieurs coups de fil à chaque fois.
Mais avec un home trainer.
Non, pas du tout.
Je sais pas ce qu'il a celui-là, j'avance pas, il est lourd quoi.
Tu déverrouilles le home trainer en bas de chez toi, c'est trop pratique. J'avoue que c'est une idée de business. Une mini salle de sport.
Ça risque de pas aller bien loin.
Non, mais une petite salle de sport personnelle. Ça peut être pas mal. Donc, à Stuttgart, il y a le même principe. Donc, t'appelles pour réserver, etc. Mm-hmm. Sauf que c'est avec des stations, comme on connaît nous, les stations de vélo en libre service. Voilà. Ce qu'on connaît nous, Grincheux, il est mort de rire. Les poils de sa barbe vibrent au gré de son souffle, tellement il rigole. Faut imaginer ça. Donc, il y a un système en France, vous l'avez cité tout à l'heure, qui s'appelle CycloCity. En fait, c'est un système de VLS, suite le système de JC Deco. Il a été en partie breveté, sachez-le. Mm-hmm. Et c'est aussi le nom, CycloCity, de la filiale chargée de l'exploitation du système. C'est le nom du système et de la boîte qui s'en charge.
D'accord.
Et en fait, devant le coût du système lui-même, pour être attractif, il faut une période de gratuité qui permet des sauts de puce gratuits aux abonnés. Et du coup, CycloCity est devenu un service plutôt onéreux.
Vous en savez quelque chose des sauts de puce? Parce qu'on s'est déjà baladé tous les trois avec Iwana, qui à l'époque où vous n'avez pas de vélo,
oui,
elle
vrai.
Sautait d'une station à l'autre. Ah, attends, clang. Attends, je vais en prendre un autre. Clang.
C'est vrai, c'est effectivement. Vrai. Alors que nous, on était tranquilles, bien installés sur nos petites selles moulées à notre postérieur.
On attendait pour l'humain et l'intérieur, c'était bon, allez, dépêche-toi.
Du coup, ça t'a motivé à l'aider à se trouver un vélo.
Ouais, je me suis dit qu'elle aurait beaucoup moins d'ennuis le jour où elle aurait un vélo, effectivement.
Et pour la petite note, donc conçue par les vélos de location de JC Deco, autant les Vélib que les Vélov, vous savez où est-ce qu'ils sont fabriqués?
Ils sont fabriqués par la pierre, je crois.
Conçus par la pierre, effectivement, donc ça c'est la classe, et ils sont fabriqués, je vais mal le prononcer, j'en suis certaine, mais c'est pas grave, en Hongrie, près du village de Toschek.
Tu veux que je regarde?
Par une filiale du groupe néerlandais Axel.
Ouais, non, je t'aiderai pas à prononcer.
moi, je m'aventure pas là-dedans.
Hein. Oulala, non.
Voilà, donc je trouvais cette petite note intéressante. Je détaille pas en fait le principe du libre-service parce que c'est, j'ai envie de vous dire, bah essayez et roulez en vélo. On t'a entendu, proc. On t'a entendu mettre des bons becs dans ta bouche.
De quoi tu parles? Je comprends pas.
On a des bonbons et c'est des sortes de dragibus hyper collants, du coup c'est impossible de parler et d'en manger parce que soit on fait du bruit en mâchant, soit... voilà.
Hein, quoi?
Des chips seraient presque préférables. Les deux autres questions que je me suis demandé...
Posées.
Les deux autres choses que je me suis demandé, c'était sociologiquement, qu'est-ce que ça a changé d'avoir des vélos en libre-service? Est-ce qu'il y avait eu un peu des études ou des questions dessus? Et puis, quelque chose m'a interpellé, ça concerne les... Enfin, j'ai trouvé l'information sur les Vélib, mais j'imagine que c'est pareil pour tout CycloCity.
Je me permets de faire une remarque, avant que tu continues. Je dois avouer que c'est quand même très très rassurant de se dire que les vélos sont fabriqués en Hongrie, que ça reste quand même en Europe. Parce que je voyais bien les vélos être fabriqués en Chine. Je présume que les cadres doivent être soudés à Taïwan, mais...
Et Taïwan, c'est ça va?
Taïwan, c'est ça reste la Chine, c'est l'île qui
est en
face.
Je veux dire, j'ai un Giant, c'est pas une marque...
Ah bah, c'est soudé là-bas aussi, quoi, mais Taïwan, si tu veux...
J'ai un Bullitt...
Ah, il vient là-bas aussi, hein. Cherche pas mon Surly, c'est pareil, hein.
Enfin bon, je voulais souligner que quand j'ai acheté mon Giant, on m'a dit « Ah, mais en fait, c'est made in Taïwan, mais c'est normal, c'est une marque de Taïwan. » Donc voilà, des fois, ça se passe bien aussi.
Oui, tout à fait.
Mais Taïwan ne veut pas dire Taïwan unique.
Non, je veux dire que...
Ok, sur cette blague...
Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait plaisir de savoir que la fabrication de ces vélos
reste
en Europe, quoi.
Très bien. Sur ce, donc, là, j'ai l'information pour Vélib, mais je pense que c'est extensible à tout CycloCity. La carte d'abonnement annuelle comporte une petite puce... L'intérêt de cette carte, ça suit les gens nominativement pour la prise et le dépôt des Vélib, en l'occurrence, j'ai l'info pour les Vélib, afin de vérifier la restitution en cas de contestation. c'est les petites cartes qu'on peut utiliser par, je sais pas comment on appelle ça, en système sans contact. On pose la carte sur la borne et hop.
C'est un système de transpondeur.
Voilà. Et donc, la Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l'Information, filiale de JC Deco. Donc, JC Deco, vous savez qu'au départ, il s'occupe de publicité. Mm-hmm. À des fins statistiques, dispose de ces données relatives aux déplacements pour une période de 24 mois. 24 mois pour des trajets qui, en général, sont. Allez.
Tu veux dire qu'il y a une boîte, privée qui récupère tous les trajets que tu fais ?
Nominativement, hein, parce qu'on parle de la carte d'abonnement annuelle qui est à ton nom. On parle pas des trajets.
Big Brother, 1984, tout ça, là.
Voilà, et la blague, la chose un peu ironique, c'est que la CNIL s'est fermement opposée à ce délai. En disant, bah attendez, un trajet qui fait moins de 30 minutes, on ne devrait pas déjà le mémoriser de façon nominative. Et en plus, même les trajets supérieurs à 30 minutes, ça serait 5 jours, s'il y a besoin de contester ou quoi. Mais... Donc voilà, donc pour l'instant, pour les abonnés de courte durée, c'est-à-dire quand vous prenez un vélo en one shot, la société SOMUPI, donc la Société des Mobiliers Urbains, pour la publicité et l'information, s'est engagée à ne conserver aucun trajet pour les abonnés courte durée, mais pour ceux annuels, rien du tout. Sachez-le, c'était la petite nouvelle sympa du jour.
Bon, mais moi ça me fait plaisir de savoir que j'ai jamais eu d'abonnement chez Vélove. Hein.
Ben, moi j'en ai eu chez Vélove et chez Vélib, mais chez Vélib qu'en courte durée et une semaine chez Vélove. Ah non, peut-être une semaine chez Vélib aussi.
Eh bien, il savait où tu allais, ce que tu faisais, avec quel vélo. Attention.
Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis pas rassuré parce qu'on entend par la fenêtre ?
On entend de l'orage.
C'est les voisins qui jouent du tambour.
J'espère, hein.
Sûrement. C'est vrai que l'acoustique de ce lieu rend possible la chose de voisins qui jouent du tambour.
Oui, parce que nous enregistrons chez nous, chez Mogor et moi, et Prokilus doit reprendre son vélo pour rentrer chez lui après et se faire les...
C'est toujours un plaisir. Les 9
km. Je dois traverser la moitié de l'agglomération.
Voilà.
Bon. Donc, tu étais en train de nous dire qu'en fait, on était tous fichés par JC Deco.
Quand on avait un abonnement annuel avec le système CycloCity.
D'accord.
Voilà. Donc, les vélos, on en a parlé, c'était en 2005 que ça a été mis en place. Donc, je ne vais pas... Désolé, mais je ne vais pas en reparler. Par contre, je me suis dit, hey, qu'est-ce que ça change sociologiquement ? Est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Alors, l'idée... Le truc intéressant à savoir, selon moi, c'est que la mairie de Paris, suite au 7 août 2009, qu'est-ce qui s'est passé le 7 août 2009 ? Le premier accident depuis l'extension du système à la proche banlieue. Avant, c'était Paris intramuros.
D'accord.
Et ça s'est étendu. Donc la mairie de Paris a déclaré, depuis la mise en service de Vélib le 15 juillet 2007, il y a eu 11 accidents mortels concernant des cyclistes, dont 7 étaient des usagers de Vélib. Alors que 55 millions de trajets étaient effectués en Vélib. Donc 7 usagers... compte 55 millions de trajets. Je vous laisse faire vos petits calculs.
Non.
Ce qui est super intéressant, parce que c'est quelque chose dont on parle régulièrement, dans la très grande majorité, les accidents mortels ont impliqué un poids lourd.
Eh oui,
voilà.
C'est connu.
Méfiez-vous des poids lourds, les angles morts.
N'ont jamais aussi bien porté leur nom.
Donc poids lourd, ça inclut aussi les transports en commun, c'est le bus. Hein.
T'es sûr.
Parce qu'il s'agit effectivement des angles morts, les problèmes. J'avais vu un bus de démonstration où étaient matérialisés au sol les différents angles morts et on était invités à pied à se placer aux différents endroits pour vraiment arriver à évaluer, à se dire « Ah oui, là je suis dans une zone où le bus, le chauffeur ne me voit pas ». C'était très intéressant.
Les TCL ont fait ce genre de démonstration en proposant aux gens de monter et de s'installer à la cabine. Ils font ça chaque année sur Bellecour. Il y a des bus et on peut monter, voir, se mettre à la place. Voir un petit peu quels sont les angles morts, les manques de visibilité, et c'est assez édifiant.
Si vous en avez l'occasion, essayez.
Pas tant que les chauffeurs qui te frôlent volontairement, mais...
Décidément, Grinchot a beaucoup de problèmes avec les autres usagers de la route. Je ne préfère pas discuter.
C'était une news tout à l'heure qui disait oui, les vélotaffeurs sont les plus heureux sur la route. Barre-toi, connard.
Non, mais globalement, ça va. Hein.
Voilà, globalement.
Alors, d'autres choses. Une petite chose en passant, parce que j'ai d'autres choses à dire sur les divers données sociologiques. En cherchant les choses sociologiques, je suis tombé sur une analyse du logo par un site qui s'appelle Visibility, comme visibility en anglais, mais avec un W. Et c'était Vélib, un logo qui déraille. L'idée derrière cette analyse est assez sympa. Alors, il s'agit d'une vidéo qui analyse. Du coup, je n'ai pas visionné la vidéo en entier parce que c'était un peu technique. Mais l'idée, c'est de dire qu'on prend l'usager pour un enfant consommateur avec une police de caractère régressive et colorée. Et donc, le vélo cible les gens qui cherchent un produit à la mode. Et la lourdeur de l'armature du vélo fait penser à un char sur deux roues. Le gris est totalitaire.
C'est pas faux.
Et donc ça, c'est un commentaire de cette vidéo. Et, c'est un, et le truc le plus drôle, c'est qu'il y a un commentaire après qui dit « Tu ne crois pas si bien dire, ces vélos sont fabriqués en Roumanie. » Donc moi, j'avais comme info la Hongrie, mais soit. « Dans une usine qui fabrique justement des chars et autres matériels militaires. Je le sais parce que j'ai rencontré le directeur de cette usine et nous avons bu de l'alcool de prune ensemble. »
C'est quoi ta source, là? Qu'est-ce qui raconte ça?
C'est un site qui s'appelle Wizibility, qui a l'air d'être un site sur le graphisme, le, oui, le design.
Mais le mec qui raconte ça, en fait, c'est gratuit, quoi. On sait pas qui c'est.
Le commentaire est signé avec son pseudo ou son nom, etc. Donc je t'inviterai à aller voir. Mais il a pas de raison en soi de mentir. Je veux dire, il raconte son histoire. Peut-être que c'est inexact, mais peu importe. Voilà. Et il y a une personne qui dit « Attendez, le style enfantin du logo donne une valeur ludique à un moyen de transport qui peut paraître fatigant. » Donc le message que ça transmet, c'est que c'est sympa, c'est marrant. Mmh. Et je trouvais aussi cette petite analyse...
Moi, je la trouve pertinente, oui, effectivement.
Sur ce, j'enchaîne avec l'idée que les bornes Vélov et Vélib sont équipées pour les cartes bancaires à puce électronique. Ça pose des soucis.
Spécialement pour les Américains qui fonctionnent avec les bornes.
Alors, ça pose des soucis pour les pauvres qui n'ont pas de carte. Il y a beaucoup de gens qui ont des cartes de retrait, mais il y en a qui en ont... Pas de retrait, justement, mais de paiement. Mais il y en a qui n'ont que des cartes de retrait et ils ne peuvent pas, du coup, utiliser les bornes. Et il y en a qui n'ont pas du tout de carte. C'est assez rare, mais ça existe. Ça veut dire que les gens les plus pauvres ne peuvent pas utiliser ce système. Bon, ils ont peut-être meilleur temps d'acheter un vélo à 20€ d'occasion que de payer pour un an de vélo, je ne sais pas. Et effectivement, ce que tu disais, les touristes, notamment les pays qui n'ont pas de carte à puce en carte bancaire.
Les Américains en tête de pont qui fonctionnent avec des bandes magnétiques.
Voilà. Donc, depuis juillet 2011, pour le Vélib, j'ai pas vérifié pour le vélo, on peut aller sur le site avec son numéro de carte et prépayer son abonnement sur le site. Voilà. Mais du coup, c'est quand même une question, une dépendance, une contrainte. J'ai aussi trouvé, je sais pas, alors, 1, 2, 3. Quand les Vélib ont été installés, au bout d'un moment, JC Deco a renégocié le contrat avec la ville de Paris parce qu'il y avait beaucoup de vandalisme et de vol. Voilà. Il y en a eu à tel point, entre guillemets, qu'il y a eu des affiches dans Paris. À ce moment-là, j'habitais dans Paris, donc je les voyais. Je sais pas si toi t'en as eu vent, je sais pas si Grinch, tu les as vus, je sais pas si Proc, toi t'en as eu vent. C'était des affiches illustrées avec casser un Vélib, c'est facile, il ne peut pas se défendre avec un catcheur sur un ring en train de martyriser un vélo.
C'est une illustration de Cabu, je crois, c'est ça ?
Je pense que c'était Cabu. Je me souviens plus. Je me souviens plus et j'arrive pas à... L'image est minuscule. Oui, c'est Cabu. Donc, l'affiche de Cabu nous dit en fait que le Vélib, c'est quelqu'un, c'est ton ami, faut pas lui faire du mal. Alors qu'en fait, c'est un simple objet. Donc là, l'article qui vient d'un blog qui s'appelle « Mange ta soupe », L'idée c'est de contester en disant non, le Vélib c'est pas un ami ou quelqu'un à qui il faut que je fasse attention ou du bien, c'est un objet, c'est possédé par un publicitaire, JC Deco, qui du coup peut mettre encore plus de publicité dans la ville grâce à son contrat. Donc ça c'est un peu la critique, parce que c'est vrai que ces affiches disant n'abîmez pas les Vélib sont vos amis, elles étaient très 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 présentes, on les voyait partout. Et en continuant mes recherches sur l'aspect un peu plus sociologique des vélos en libre-service, Grincheux a trouvé un visuel de l'affiche que nous pourrons donc mettre en lien sur notre site. Je suis tombé sur un article qui date un petit peu, il a été écrit en 2007 et il a été mis à jour en 2011, intitulé « Vélib, Vélov, Vélo, une Vélorussion ?» Point d'interrogation. C'est vrai que j'ai pas parlé des différents noms des vélos en libre-service, ça aurait pu être rigolo.
Ça pourrait carrément faire l'objet d'un article complet.
Je pense qu'on va peut-être en faire un espèce de quiz avec des trucs à gagner, je sais pas.
Ça pourrait être une très bonne idée.
En même temps, c'est facile à trouver. Bon, on va réfléchir à ça. Donc, cet article, c'est sur le site sciencehumaine.com du magazine Sciences Humaines. Ah, je cherchais une analyse côté plus sociologique, parfait. Donc, j'ai surligné quelques petites choses dans cet article, qui est assez court. Disons que ce mode de transport est collectif-individuel. Collectif parce que tout le monde s'en sert, et individuel parce qu'on se déplace un par un. Pour un des sociologues qui s'appelle Yankel Fijalkov, c'est le signal d'une grande mutation. Parce que beaucoup de gens souhaitaient faire du vélo mais n'osaient pas se lancer par peur des voitures ou d'être ridicules. Et maintenant, faire du vélo, c'est tendance. Ça, c'est plutôt positif. Côté cycliste, on trouve ça plutôt positif. Pour lui, c'est aussi un facteur de cohésion sociale parce que c'est accessible à un très large public, jeune, vieux, riche ou pauvre. Donc je reviens à ce que j'avais dit juste avant sur le fait de posséder une carte bleue. Quand on est vraiment trop pauvre pour avoir une carte bleue, c'est pas évident. Mais le cycliste est directement accessible, abordable par les autres, il n'est pas enfermé dans une carcasse métallique à l'abri derrière sa vitre coupée du monde. Donc du coup, ça change un petit peu la donne par rapport au déplacement et par rapport aux gens qui sont à vélo. Il note aussi qu'il y a eu un apaisement de la ville, donc ça c'est tout le point des masses critiques, je dirais. L'idée c'est qu'il y a une diminution de la vitesse automobile, et ça favorise l'appropriation de la ville par ses habitants, celle-ci n'étant plus seulement le terrain des voitures. Donc le vélo est bon pour la ville et ses habitants. Et après la question c'est, mais pour son économie ? J'en ai parlé juste avant qu'on enregistre. En limitant le temps passé dans les transports en commun, gain de productivité pour les travailleurs. En améliorant la santé, en réduisant la pollution et en favorisant l'activité physique, gain considérable en termes de dépenses de santé.
J'ajouterai aussi une chose qui est, je pense, qui pour l'instant est largement sous-estimée, c'est aussi la conservation des, du commerce de proximité.
Ils en parlent juste après, effectivement. Ah. Tout à fait. Ils disent que à Lyon, le service Vélov, il y a eu des enquêtes, il y en a en ce moment d'ailleurs, où les transports en commun lyonnais font des grandes enquêtes, ils arrêtent les gens dans la rue en disant hey, « vous allez où? Vous faites quoi? Pourquoi? Comment ?» Et donc, il y a une progression de l'animation urbaine et de l'activité commerciale, parce que les cyclistes sont plus accessibles et c'est plus facile. Et dernière chose, le vélo lui-même, JC Deco, ça a créé des emplois, le vélo libre-service, ça a créé des emplois à la fois éventuellement de vélocistes, puisque des gens se remettent au vélo, puisqu'il y a plus de vélos sur les routes, donc les routes sont un peu plus sûres pour les cyclistes, et ça crée des emplois par JC Deco, qui a besoin de gens pour entretenir les systèmes, entretenir les vélos.
J'ai donc, vu c'est passer bon. Ces jours-ci un chiffre du nombre d'emplois créés par l'industrie du cycle dans sa globalité en Europe.
Ah oui, je me souviens de cette étude, mais alors j'ai pas le chiffre du tout en tête.
Mais je me souviens plus du chiffre.
Bon, quoi qu'il en soit, la petite conclusion de mon dossier, c'était de dire, le vélo en libre service, ça existe depuis un bon moment maintenant, ça fait 40 ans, 40 ans en 2015. Il existe plusieurs systèmes chez nous, le système privilégié c'est associé à un marché publicitaire, ce qui fait que c'est une société privée qui s'en occupe, une société de publicité qui s'en occupe et avec un équipement spécifique à cause de la loi sur l'accrochage au mobilier urbain. Oui, tu as retrouvé
donc
le chiffre.
Je viens de retrouver le chiffre, donc c'est bien ce qui me semblait. L'économie du vélo en Europe a créé 650 000 emplois.
Voilà, donc c'est quelque chose
de
positif si on cherche la création.
Ouais, donc c'est un article de The Guardian d'aujourd'hui d'ailleurs, de mercredi.
Donc l'idée c'était de dire que avec l'informatisation ou pour les systèmes Colobike avec les téléphones mobiles qui se répandent, finalement le vélo en libre service, j'ai l'impression que c'est plutôt positif pour la ville. Ça remet plus de vélos en ville. Ça, comme disait l'étude sociologique, ça apaise un petit peu la circulation. Ça relance du commerce de proximité. Donc c'est plutôt quelque chose de chouette. Les petits points un peu négatifs que j'ai évoqués, c'est le système français, la CycloCity, avec le fait d'avoir une carte bleue à puce, la confidentialité, avec l'abonnement annuel où on est absolument pisté et traqué, et le fait donc que le matériel spécifique rende le service onéreux, en fait. C'était ça le truc. Installer des bornes, etc., faut le faire à chaque fois. Voilà, donc le vélo en libre-service, un rapide, je sais pas si c'est très rapide au final, mais un rapide topo sur le VLS.
Eh bien, merci.
Merci beaucoup, Mogor. C'était très très intéressant et très instructif.
Donc, ce podcast touche à sa fin.
Voilà.
Moi, je voulais terminer en vous parlant donc d'une petite vidéo ordinaire où l'on voit les automobilistes respecter la bande cyclable, attendre que les vélos soient tous passés avant de la couper. Enfin, bon, ordinaire pour les Danois sûrement, mais chez nous,
c'est de l'ordre du fantasme.
Tant de patience envers les cyclistes semble encore de la science-fiction. Donc, je crois que nous trois, on a déjà vu cette vidéo. Je vais mettre la vidéo sur le billet du podcast pour que vous puissiez en profiter également. Et pour terminer, oui, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, vas-y, je t'en prie.
Et ben, je voulais dire pour terminer, où est-ce que l'on peut nous retrouver sur Internet?
Sur Facebook, sur la page du Cyclocast.
Tout à fait, donc Facebook/Cyclocast. Sur notre site web, www.cyclocast.fr.
Sur Twitter, @cyclocast.
Et individuellement, vous pouvez me retrouver @grincheux.
Ou @mogor.
Donc toujours sur Twitter.
Sur Twitter, oui, je réponds.
Et on ne mord pas.
Et moi, je suis toujours pas sur Twitter.
Mais nous avons un email, cast@cyclocast.fr.
Et bien entendu.
.fr.
Oui, cast@cyclocast.fr.
Et ça arrive chez nous trois.
Voilà. Ça arrive sur nos trois adresses mail. C'est et bien bon. Sûr.
Le répondeur.
Le répondeur qui est sur le site.
Donc, le répondeur
n'hésitez
vocal.
Pas. N'hésitez pas, je vous ai dit, si vous avez les références de loi concernant le.
Si vous voulez nous faire un petit coucou, vous êtes en vacances à l'autre bout du monde.
Attends, laisse terminer, Proc. Tu veux que les gens t'envoient des références de loi concernant
les références concernant ce que je disais tout à l'heure sur le
sur les condamnations concernant les personnes mal garées sur les bandes cyclables.
Ah, d'accord.
Qui ont été condamnées et qui ont été mis en cause.
Toi, on va t'envoyer faire un stage avec ton père. Ah. Tu vas nous faire des dossiers QPC et compagnie.
Ouais, j'ai très très peur de finir avec un bonnet d'âne. Mais bon.
D'accord.
Très bien. Eh bien, merci. Pour le prochain épisode, nous aurons un invité.
Ah.
Mais ah on oui. Vous garde, on vous garde la surprise.
Coupe vite le micro, tu vas voir. Je vais te faire parler.
Oh, tu le connais, tu le sais.
Eh bien, bonsoir.
Nous avons un invité qui vient à Lyon pour la fête des Lumières. Donc voilà. Et il est temps de vous dire bonsoir.
Bonne soirée. À bientôt. Merci de votre écoute.
Tough.